Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. N'hésitez pas à nous soutenir, notre radio ne vit que grâce à ses auditeurs. Pour ce faire, rendez-vous dans la rubrique Soutenez-nous sur la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Vous le savez, depuis que Storia Voce existe, nous nous employons entre autres à expliquer les permanences de l'histoire. Par exemple, j'ai reçu à ce micro la jeune historienne Pauline Guéna du groupe Actuel Moyen Âge qui vise précisément à révéler ces permanences, permanences entre l'histoire médiévale et notre époque contemporaine, dans le but évident de sortir la période des clichés habituels dont elle pâtit. Je souhaiterais aujourd'hui emprunter le même chemin, mais je souhaiterais le faire à travers un exemple plus récent, celui de Napoléon. Vous le savez aussi, l'information sur Internet a produit un phénomène nouveau que l'on appelle communément les fake news. Or, les années 1815 et suivantes eurent aussi leur lot de fausses informations et surtout de vrais escrocs. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte des faux Napoléons qui, dans les mois suivants l'exil à Sainte-Hélène, apparurent dans la France de la Restauration. Qui furent, d'abord, ces hommes qui se firent passer pour l'ancien empereur? Comment expliquer l'incrédulité de la population à leur égard, parce qu'il y a incrédulité? Surtout, que va faire le nouveau régime face à ce phénomène? Et enfin, comment interpréter le tout afin de mieux saisir la réalité politique et sociologique de la Restauration? C'est ce que nous allons voir avec Nathalie Pigot. Nathalie Pigot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne de formation. Vous êtes passée par Paris 4 Sorbonne, diplômée de sciences politiques. Et vous venez de publier chez CNRS Éditions. C'est la première fois que nous traitons d'un livre des éditions du CNRS, Les faux Napoléons. Nathalie Pigot, il y a eu des faux Napoléon, il y a eu des faux Louis XVII, il y a eu aussi des fausses Anastasia. Les faux sont une récurrence de notre histoire?
Des usurpateurs, des gens qui se font passer pour des gens qu'ils ne sont pas, ça a effectivement toujours existé. C'était d'ailleurs déjà dans les écrits antiques, puisque les historiens antiques en parlaient déjà, en disant qu'il y avait déjà des usurpations à cette époque-là. Et effectivement, l'histoire regorge de ces personnages, soit mystificateurs, soit escrocs, soit parfois fous, qui endossent des habits qui ne sont pas les leurs.
Alors, j'ai oublié de dire que le livre avait été préfacé par Jean Tullard. C'est votre parcours universitaire qui vous a amené sur ce sujet?
Exactement. En fait, j'ai eu la chance d'assister et d'être une élève assidue des cours de Jean Tullard à la Sorbonne, hein, quand j'étais élève à la Sorbonne. Et par la suite, en fait, j'ai fait mon mémoire de maîtrise à ses côtés sur le sujet justement des faux Napoléons. Donc, c'était tout logiquement que, du coup, Jean Tullard a fait la préface de ce livre.
La première leçon de votre ouvrage, c'est que l'escroquerie révèle, et c'est ce qui a véritablement de passionnant dans cet ouvrage, c'est qu'elle révèle le contexte d'une époque.
En fait, oui, c'est tout à fait ça. Ce qui se passe, c'est que, au-delà de leur côté pittoresque, anecdotique, forcément très enthousiasmant, alléchant à lire et quand on s'en imprègne, en fait, ce qui se passe, c'est que, au-delà de tout ça, on a finalement une idée de la perception qu'avaient les populations dans l'empereur Napoléon juste après sa seconde abdication. On a aussi une idée du contexte de l'époque, comment étaient les populations de l'époque, ce qu'elles craignaient, ce qu'elles ressentaient, si elles étaient d'ailleurs adhérentes ou pas à ce nouveau régime de la monarchie restaurée. Donc finalement, découvrir les aventures de ces faux Napoléons, c'est aussi découvrir la France de 1815, ses aspirations, ses craintes et aussi ses espoirs.
Alors, la première, on n'a pas conscience de ce que vous présentez dans les premières pages. On a l'habitude de dire, et à juste titre, que la Révolution française fait table rase du passé. Or, la Restauration veut faire table rase de la Révolution. Et vous commencez par cette image, votre premier chapitre, l'image de l'empereur au début de la Restauration et l'apparition des faux Napoléons. Vous présentez un pouvoir politique qui souhaite effacer tous les symboles de, si vous me permettez l'expression, l'ancien régime.
Tout à fait, c'est vraiment ce qu'ils souhaitent faire. Forcément, pour eux, la Révolution et l'Empire, ce sont des régimes honnis, des régimes qu'il faut effacer. Dès la première Restauration, mais a fortiori en 1815, après le retour de l'île d'Elbe, il devient vraiment impératif pour le pouvoir monarchique de faire table rase du passé, d'effacer tout ce qui est à l'effigie de l'empereur et du régime impérial. Et il y a une vraie organisation de la destruction de tout ce qui peut rappeler le souvenir de Napoléon, aussi bien les souvenirs, les objets concrets, comme tout ce qui est tabatière, couteau, affiches, estampes, journaux ou bulletins de la Grande Armée, par exemple. Mais il y a aussi une vraie organisation d'une, je dirais, une contre-propagande dans les journaux, dans les libelles, avec une déconstruction du mythe napoléonien de la part des royalistes. Napoléon n'est plus ni Napoléon, ni l'empereur, ni Bonaparte. C'est bien sûr l'usurpateur ou Bonaparte, pour mettre en évidence évidemment son origine étrangère. Il est décrit évidemment avec des images assez pittoresques et assez symboliques. C'est un ogre, c'est l'ogre de Corse, c'est le dévoreur d'enfants. Évidemment, là, on rappelle les campagnes napoléoniennes et la conscription et du coup, effectivement, le ressenti des Français de l'époque est fortement anti-napoléonien par rapport à la conscription. Et on parle aussi du charlatan, d'un égoïste qui ne voit que lui dans l'univers. Bref, vraiment, la Restauration s'est employée à effacer tout souvenir autour de l'empereur et du régime impérial.
Alors nous allons y revenir, mais peut-être une première impression. Comment réagit la population par cette volonté de démythification ?
Alors, il y a plusieurs réactions. La première, c'est que finalement, ils n'ont pas forcément besoin qu'on leur dise les choses et qu'on leur dise il ne faut pas aimer Napoléon. Au contraire, c'est un mystificateur, c'est un usurpateur. Parce que finalement, la population de 1815, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même une population qui est profondément lasse des guerres napoléoniennes. Donc, ils portent pour certains d'entre eux une espèce d'espoir dans cette monarchie restaurée. Ils n'ont pas forcément besoin d'entendre ça. Et d'un autre côté, il y a, je dirais, le menu peuple, comme on pourrait l'appeler, et comme l'appelaient d'ailleurs les royalistes de l'époque. Il y a les anciens soldats réduits à la demi-solde, qui eux, au contraire, chantent un âge d'or impérial, et que finalement cette anti-propagande de la part des royalistes excite encore plus dans leur désir de Napoléon, si j'ose m'exprimer ainsi.
Quatre hommes, Mathieu Félix, Jean-Baptiste Ravier, Jean-Charles Ninet et le père Hilarion, ce sont les quatre faux Napoléon. Comment êtes-vous arrivé vers ces personnages, en fait ?
C'est un long, long travail d'investigation. On a découvert quatre faux Napoléons dans cet ouvrage de 1815 à 1823, mais il est tout à fait possible que les archives judiciaires et policières regorgent encore d'autres usurpateurs. En tout cas, ces quatre-là, on les découvre en fouillant les archives, effectivement, judiciaires, policières, aussi bien nationales que régionales et départementales. Et on les découvre aussi grâce aux journaux de l'époque, comme par exemple l'Ami de la Religion et du Roi ou le Journal des Débats. Donc c'est un gros travail de recherche et de passion, feuilletage effectivement de toutes les sources de l'époque.
Et alors, donc au début, vous trouvez un nom et vous essayez dans les archives de récupérer un maximum d'informations sur ces quatre personnages.
Exactement. En fait, un nom, parfois on appelle un autre. Typiquement, on a un temps confondu le premier faux Napoléon que vous évoquiez, à savoir Mathieu Félix, avec le deuxième Jean-Baptiste Ravier. Et donc, en fait, c'est en étudiant le premier, finalement, qu'on arrive au deuxième. Ensuite, en s'imprégnant de lectures un peu plus régionales de l'époque, de mémoires, de préfets, de sous-préfets de ces régions, et on tire un peu la pelote, on se rend compte qu'ils ont été dans telle ou telle région. Ensuite, on remonte encore un petit peu et on tombe sur d'autres mémoires qui, eux, font état d'un autre faux Napoléon. Bref, c'est voilà, on tire vraiment les fils de la pelote et on arrive comme ça à les retrouver les uns après les autres. Et effectivement, leur jugement, les échanges aussi qu'il y a eu entre les préfets et les différentes autorités permettent d'en savoir un peu plus sur ces quatre personnages qui ont endossé l'habit impérial 1815 à 1823.
Alors Voltaire, du haut de sa superbe, disait « Le plus gros du genre humain restera toujours imbécile ». Il y avait une ironie chez Voltaire, bien évidemment, mais vous avez beaucoup ri en faisant vos recherches, parce que vous racontez des tas d'anecdotes et vous voyez surtout ces gens qui suivent comme un seul homme ces faux Napoléon. Rien qu'un exemple, hein, dès la page 26, bien évidemment, le faux Napoléon qui se déclare, eh bien, reçoit de l'argent et récupère un peu d'argent.
On rit beaucoup, c'est très pittoresque, c'est aussi la langue du début du 19e siècle qui est une langue très imagée, très bien écrite, donc aussi bien dans les correspondances des préfets que dans les rapports de la police ou même dans les écrits même des faux Napoléon, puisque j'ai pu retrouver certains de leurs écrits, lettres d'excuses évidemment pour essayer d'avoir la peine la moins lourde possible. On rit, on découvre une vraie époque, un vrai contexte économique spécifique. On découvre aussi, et c'est ça qui est touchant, un vrai amour de l'empereur, sans doute lié évidemment à l'envie d'une résurgence de Napoléon et du souvenir impérial, aidé par le fait que le régime monarchique subit de nombreuses fragilités. Mais c'est assez touchant de découvrir tous ces, entre guillemets, encroutés de Napoléon, comme on a pu les appeler, comme les royalistes pouvaient les appeler, parmi le peuple ou les ouvriers ou les anciens soldats. Donc à la fois on rit, on est amusé et effectivement on est assez abasourdi de la crédulité des populations de l'époque.
Parce que ces hommes n'ont pas grand-chose, sont pas des. Alors, il y a sur les quatre personnages qu'on a cités, il y en a un, le père Hilarion, qui a un statut un peu particulier parce qu'il a un rôle particulier dans la société. Nous allons y revenir. Mais les trois premiers sont des personnages qui viennent de quel milieu exactement ? Est-ce qu'ils doivent, comme une revanche sur la vie, se donner un rôle ?
Non, ce sont effectivement des personnes qui sont issues d'un milieu simple, modeste. Pour certains d'entre eux, on peut quand même parler un petit peu de mégalomanie quand ils endossent l'habit impérial. Mais vraiment, le motif premier de leur usurpation d'identité, c'est un dessein bassement matériel. C'est des gens qui sont dans le dénuement, qui sont pour la plupart d'entre eux anciens soldats, donc réduits soit à la demi-solde, soit à pas grand-chose. Ils sont tantôt colporteurs, tantôt journaliers, tantôt instituteurs ou se disant instituteurs, tantôt médecins. Donc bref, ce sont des personnes qui essaient un petit peu de vivre comme elles le peuvent et qui du coup surfent, si j'ose m'exprimer ainsi, sur le désir napoléonien de l'époque pour pouvoir arriver à leur fin.
Il y a d'autres points communs entre ces trois personnages, par exemple dans la longueur de leur usurpation.
Alors les points communs entre ces personnages, ça peut paraître une évidence, mais c'est sans doute une certaine ressemblance physique avec Napoléon. Si on parle du quatrième faux Napoléon, lui, il a soi-disant une ressemblance physique extraordinaire avec l'empereur. Pour les trois premiers, c'est moins facile à établir puisqu'on a des descriptions physiques qui sont assez approximatives et qui ne permettent pas de dire qu'ils ont vraiment une grosse ressemblance avec l'empereur. Par contre, ce qui est évident est qu'il faut qu'ils aient une certaine ressemblance. Il faut que leur physique puisse faire illusion, mais finalement, pas beaucoup plus, puisqu'il faut avoir en tête qu'ils ont devant eux des populations qui, pour la plupart, n'ont jamais vu l'empereur, et qui, de plus, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, n'ont plus les effigies, les pièces ou les estampes de Napoléon pour pouvoir éventuellement confronter le souvenir qu'ils ont de l'image de l'empereur avec les personnes qu'ils ont devant eux. Donc, comme premier point commun, cette prétendue ressemblance physique. Un autre point commun, c'est qu'ils ont tous, même si ce sont pour certains d'entre eux de pauvres sbires, ils ont quand même, il faut leur rendre ça, un certain talent de fabulation et une évidente séduction par le verbe. Que ce soit Mathieu Félix, Jean-Baptiste Razier, Jean Charnier ou encore plus le père Hilarion, c'est évident qu'ils savent parler. Ils savent tenir leur rôle. Ils n'oublient pas d'ailleurs dans leurs escroqueries d'employer des termes propres à évidemment accréditer leur identité. Donc ils n'oublient pas de dire que leurs armées les attendent. Ils n'oublient pas d'avoir pour l'un d'entre eux le célèbre bicorne de Napoléon. Ils n'oublient pas de montrer un ruban rouge qui était assimilé à la Légion d'honneur que portait sans arrêt l'empereur. Ils n'oublient pas aussi, devant des publics parfois un peu plus avertis, composés de ex-militaires, de parler de la bataille de Mont-Saint-Jean, donc la bataille de Waterloo, en disant que si leurs généraux ne les avaient pas trahis, ils auraient été vainqueurs. Bref, ils ont quand même cette séduction par le verbe qui permet d'accréditer la fable. Et ils ont aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, pour trait commun, d'avoir été médecin ou de se dire médecin, et d'avoir été, pour deux d'entre eux, des instituteurs, enfin en tout cas d'avoir participé à l'éducation de d'enfants de certaines personnes qu'ils avaient rencontrées.
Alors votre livre est très bien écrit, je me permets de citer un passage, le 31 du même mois, Charnay est à Bourg, donc Charnay, un des faux Napoléon, où il achète un petit chapeau à trois cornes et rencontre Étienne Soleil, tambour de la 2e Légion de la Loire qui est en garnison dans cette ville. Notre empereur offre à boire au tambour, l'invite à dîner, puis lui fait cadeau d'un pantalon nankiné et d'un gilet de basin bleu qu'il achète rue Mercière. Le lendemain, 1er août, avant de le quitter, Charnay remet à Étienne Soleil de l'argent pour qu'il boive, je cite, à sa santé. C'est presque une fable de La Fontaine.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a ce désir d'argent, il y a évidemment le dessein bassement matériel, mais il y a aussi ce besoin un peu de mégalomanie, notamment chez Charnay, c'est évident. L'argent qu'il reçoit, en fait, de son imposture, des gens qui sont crédules et qui, du coup, donnent de l'argent à Napoléon pour qu'évidemment il puisse aller voir ses troupes et les retrouver, eh bien, Charnay, lui, le distribue à ses compagnons d'infortune, les distribue sur la route aux différents pauvres, en n'oubliant pas évidemment de s'en vanter aux cochers, en disant voyez, il faut donner de l'argent aux pauvres. Donc finalement, l'objet de son imposture et ce qu'il récupère auprès des populations, eh bien, il le redonne comme ça.
Il y a une dimension religieuse que vous évoquez d'ailleurs dans un des chapitres du Messie, l'image que laisse Napoléon. Mais avant de venir à cette idée, peut-être un dernier éclairage sur le quatrième personnage, le père Hilarion, qui ne s'appelle pas d'ailleurs le père Hilarion, mais Tissot, qui est un peu particulier là.
Le cas de Joseph Tissot, effectivement le père Hilarion en religion, est à bien des égards différent des trois autres imposteurs qu'on vient d'évoquer. À divers égards. Premièrement, son aventure intervient de 1821 à 1823, soit après la mort de l'empereur. Donc du coup, c'est un contexte assez différent. Ensuite,
il faut oser.
Il faut oser, et c'est pas pour ça qu'en face de lui, il aura des populations moins crédules, rassurez-vous. Au contraire. Deuxièmement, il ne se fait pas passer pour Napoléon, contrairement aux autres. Il se contente de ne pas démentir les rumeurs qui circulent à son endroit. Donc en fait, les gens pensent qu'il est Napoléon, ils se contentent de dire, de ne pas démentir ces rumeurs-là. Donc encore une fois, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Et troisième chose un petit peu particulière, contrairement aux autres faux Napoléons, du coup, il n'a pas été jugé ni condamné pour son usurpation d'identité.
Mais dans quel but ?
Alors, par contre, le but, lui, est assez commun avec nos trois autres faux Napoléons, puisque le père Hilarion, il a écrit différentes choses sur la médecine, sur la psychiatrie, et le but avoué de sa vie, c'est vraiment de rendre meilleur le sort des aliénés en France. Et pour ce faire, il tente de racheter dans différentes régions, dont la Lozère, où se situe notre aventure, des fermes, des bâtisses, voire des châteaux, pour en faire des asiles d'aliénés, selon ses propres préceptes, pour que les aliénés puissent y couler des jours un peu plus heureux que le sort qui leur est réservé dans d'autres hôpitaux où apparemment c'est peu enviable. Et c'est pour cela en fait qu'il ne dément pas les rumeurs qui le concernent autour de Napoléon, puisque comme nos trois autres usurpateurs, il a de la part de la population beaucoup d'offrandes, on va appeler ça des offrandes, beaucoup de dons grâce au fait qu'il est assimilé à Napoléon. Donc il évidemment il reste stoïque vis-à-vis de ses populations, et il ne dément surtout pas, puisque ça lui permet finalement d'acquérir ses propriétés et de rendre meilleur le sort des aliénés tel qu'il veut.
Alors il s'occupait des fous, mais il n'était pas fou, et ces quatre personnages ont parfaitement la tête sur les épaules.
Oui, il ne s'agit pas de gens qui sont dans des hôpitaux psychiatriques et qui un jour se croient pour Napoléon, le deuxième jour se croient pour Jeanne d'Arc. Non, on parle
ou
Jules César. On parle vraiment de personnes, de vrais escrocs qui ont clairement usurpé cette identité par besoin d'argent ou par mégalomanie, voire un peu des deux. Mmh.
La crédulité s'achète ? La population. Il y a une chose que nous n'avons pas évoquée, c'est l'unité de lieu. Oui. C'est que les actes en fait sont commis dans un espace géographique restreint.
Un cadre spatio-temporel même, ouais. Pour aller un peu plus loin, assez restreint, puisque la première aventure a lieu dans l'Isère, la seconde et la troisième ont lieu dans l'Ain, et la troisième un petit peu plus loin en Lozère. On peut trouver différentes raisons à ce cadre spatio-temporel assez restreint. La première, c'est que on peut imaginer que ces régions, en tout cas pour l'Ain et l'Isère, qui sont assez proches de la frontière, sont peut-être un petit peu moins pénétrées par, les serments royalistes de l'époque. Donc, c'est un petit peu plus facile d'y faire des usurpations d'identité. Et puis, surtout, ce sont quand même des régions où il y a un espèce de sentiment bonapartiste. C'est sans doute un peu fort de le dire comme ça, mais en tout cas, quand on observe la réaction des populations lors des 100 jours, donc lors du retour de l'île d'Elbe, il est très clair que les populations de l'Ain et de l'Isère se sont montrées relativement favorables au retour de Napoléon. On peut donc trouver, dans cette raison-là, le fait que du coup... on y est accueilli sans doute beaucoup plus favorablement quand on se présente Napoléon, peut-être que dans d'autres régions de France. Après, ce sont aussi des régions plus reculées où il est peut-être plus facilement possible de faire ce type d'escroquerie.
Donc il y a un mythe du retour ?
Il y a clairement un mythe du retour. Un mythe du retour qui existe dès 1814, mais qui évidemment ne peut être que renforcé en 1815 après le retour de l'île d'Elbe. Le retour du coup n'est plus un mythe, ce n'est plus une chimère. Napoléon de retour, c'est possible. Napoléon de retour, c'est plus que possible, ça a eu lieu. Et dès 1815, dès l'été 1815, alors que Napoléon est en route vers Sainte-Hélène, les rumeurs les plus folles commencent à circuler. Bien entendu, Napoléon a déjà faussé compagnie aux Anglais. Il est peut-être déjà aux États-Unis. Il est à la tête d'armées tantôt américaines, tantôt turques, tantôt arabes. Les archives de l'époque regorgent de ce qu'on appelle ces cris séditieux, donc cris de la population ou libelles qui circulent et qui annoncent dès 1815 le retour imminent de l'empereur en France.
Ce qu'il y a d'étonnant, et c'est en cela qu'il y a une permanence de l'histoire. Il y aurait eu le réseau social Twitter à l'époque, la rumeur aurait appelé la rumeur et il y a une accoutumance à la rumeur.
Je vais reprendre effectivement l'introduction que vous faisiez tout à l'heure. Parler de fake news, c'est tout à fait ça. Fake news, pour employer ce terme anglo-saxon qui est parfois pas forcément toujours bien traduit, c'est vraiment tout ce qui est effectivement fausse rumeur. Mais fake news, il y a aussi la notion de réalité alternative. Et là, on est totalement dans une espèce de réalité alternative de l'époque, parce qu'au-delà de l'aventure de nos quatre faux Napoléons qui narrent dans cet ouvrage, les archives, c'est ce que je vous disais, regorgent de cris séditieux, de vive l'empereur qui sont poussés ci et là en France. Donc il y a vraiment tout un système de fausses nouvelles et je dirais même plus de réalité alternative pour ceux qui les poussent, puisque eux, ils y croient dur comme fer au retour de Napoléon.
Et c'est parce que il y a cette accoutumance à la rumeur que les autorités ont du mal à asseoir une sorte de contre-feu.
Évidemment, le fait qu'il y ait cette rumeur persistante, ça fait que quand des faux Napoléons se présentent, il y a une crédulité qui est renforcée. Finalement, accoutumé à recevoir toujours ces bruits les plus abracadabrants possibles sur le retour de l'empereur, les populations voient finalement arriver nos faux Napoléons avec un étonnement tout relatif. Et donc, cette espèce de permanence du souvenir napoléonien, il est forcément tout à fait inadmissible pour les autorités de la Restauration. Et c'est pour ça, finalement, qu'il a fallu, dès le départ, éradiquer tout souvenir autour de l'empereur. Et qui mieux que nos usurpateurs sont une résurgence possible du souvenir napoléonien. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu aussi avoir un autoritarisme, il y a des jugements très sévères autour de Napoléon, de nos faux Napoléon, pardon, tout au moins jusqu'à la mort de l'empereur en 1821.
Il y a une sorte de paradoxe, vous en parliez tout à l'heure, quand on insultait, enfin en tous les cas la propagande mettait en avant le fait que l'empereur était un ogre, c'est-à-dire un consommateur de vie. Il y a un paradoxe, parce que d'un côté, il y a cette aspiration à la paix, et de l'autre côté, le régime semble, on va dire, si fragile.
Le régime de la Restauration, si on essaie de se replacer dans le contexte de l'époque, il aurait pu, voire il aurait dû recevoir l'approbation du peuple français. Comme je vous l'expliquais, le peuple français à cette époque-là, il est quand même profondément las des guerres napoléoniennes. Donc finalement, c'est pas du tout donné dès le départ que les usurpateurs que sont nos quatre fous Napoléon soient accueillis avec crédulité, voire avec ferveur. Et c'est pas du tout donné qu'il y ait une construction d'un mythe impérial dès cette époque-là. Mais effectivement, la restauration monarchique subit à la fois des fragilités, des faiblesses, qui font que les Français qui auraient pu peut-être adhérer à ce régime s'en sont vite détournés. Et avec ce détournement du régime monarchique, il y a évidemment aussi en parallèle et en réaction une légende impériale qui a commencé à naître. Les fragilités du régime monarchique, elles sont multiples. Si je ne voulais en citer que quelques-unes, peut-être parfois anecdotiques, par exemple juste... le fait que ce soit Louis XVIII qui arrive au pouvoir en 1814 et 1815. Il faut se remémorer ce que c'est que Louis XVIII. Louis XVIII, c'est quand même un vieillard sénile, malade, hein, qui ne se déplace qu'en calèche. Donc à tout niveau, le contraste est rude avec Napoléon. Il ne s'entoure que de personnes qui ont eu une réputation de talent en 1789. Donc il y a vraiment le signe d'un retour en arrière pour les populations françaises. Et ce signe du retour en arrière, il est terrible parce que, en fait, dans les populations aussi bien rurales qu'en ville, on craint par-dessus tout le retour pur et simple à l'ancien régime qui signifierait du coup la restitution des biens nationaux et à nouveau le droit féodal. Donc finalement, on craint vraiment pour les biens nationaux qui ont été acquis sous la Révolution. Et en réaction à cela...
Donc,
le...
qui touche au fond à la richesse qui a été créée pendant la Révolution.
Exactement. En fait, les acquéreurs des biens nationaux et qui ont acheté, pour pas forcément grand-chose, des terres qui appartenaient soit à l'Église, soit à la noblesse, n'ont qu'une peur, c'est qu'on vienne la réclamer ces terres, puisque les nobles, les curés, les royalistes fervents, partout en ville, dans les campagnes, répètent à l'envi que tout ce qui s'est fait depuis 25 ans n'a aucune force légale et qu'on va revenir au régime d'antan, on va revenir aux privilèges. Évidemment, ça ne va pas durer. Pour ces royalistes, ils n'imaginent pas une seule seconde qu'on ne va pas gommer d'un seul trait la Révolution et l'Empire. Et le pire, c'est que finalement, Louis XVIII lui-même donne le signe de ce retour en arrière, puisque quand il arrive au pouvoir, il date sa charte constitutionnelle de sa 19e année de règne, c'est-à-dire juste après la mort de Louis XVII, gommant ainsi symboliquement, et c'est quelque chose, et la Révolution et l'Empire. Et en face de cela, Napoléon, c'est évidemment le fil de la Révolution et c'est évidemment le garant de tout ce qui constitue les acquis de la Révolution.
Ce mot de garant, vous l'utilisez à plusieurs reprises dans votre livre, il est bien évidemment central.
Oui, c'est très important puisque d'autant plus que Napoléon a disparu de la scène politique, il cristallise les espoirs des mécontents et les mécontents du régime monarchique, comme je vous l'expliquais, il y en a énormément. Et en face, forcément, on fait appel au souvenir impérial et on chante un âge d'or impérial. Donc c'est bien aussi par contrefeu au retour de la monarchie qu'il y a aussi la construction d'une légende impériale populaire. N'oublions pas aussi parmi les fragilités et les faiblesses du régime monarchique, le fait qu'il y a un contexte économique pas favorable à la monarchie, avec un contexte où clairement il y a beaucoup de chômage, pas beaucoup de pain, etc. Et en plus, il y a aussi l'occupation alliée, qui fait qu'il y a de nombreuses exactions, il y a aussi une contribution de guerre, et il y a également le fait qu'il y a eu une terreur blanche. Après 1815, après le retour de l'île d'Elbe, il y a eu un fort contre-feu anti-bonapartiste qui n'a pas forcément plu au peuple, parce qu'il y a eu beaucoup d'exactions anti-bonapartistes. Donc bref, il y a vraiment un contexte général qui naît contre la seconde monarchie.
Il y a une chose aussi que vous soulignez, qu'on ne voit peut-être pas assez en histoire, c'est l'effet générationnel. C'est-à-dire qu'il y a une jeune génération qui n'a pas, au fond, connu l'Ancien Régime, celle qui naît en 1787-88, qui a 15, 16, 17, 18 ans, quand, au moment de la Restauration, c'est une population qui est née en quelque sorte avec le régime.
Cette génération-là, forcément, elle a du mal à se reconnaître dans la monarchie restaurée, et forcément, elle se reconnaît beaucoup plus dans le régime impérial, même avec les problématiques des guerres. Donc forcément, effectivement, il y a un contexte tout à fait propice, à la fois dans le peuple, mais peut-être dans d'autres tranches de la population, à ce qu'on ait envie d'autre chose. Et cette autre chose, pour l'instant, bah, c'est l'empereur. Parce que c'est le souvenir le plus fort, le plus idéalisé, le plus pratique et le plus peut-être fantasmé, mais aussi avec quelques raisons. Donc finalement, le souvenir impérial, c'est forcément celui auquel on souhaite se raccrocher en 1815.
Mais là, c'est très... c'est très ironique d'un autre côté, parce que là aussi il y a une permanence de l'histoire, il y a le « c'était mieux avant », et toute cette génération laisse penser que les choses étaient mieux sous la Révolution qu'elles ne l'étaient avant la Révolution.
C'est cela, en fait, il y a... Complètement, vous avez raison, ce mythe du c'était mieux avant, qui est dû, c'est ce que vous expliquez aussi, au fait que cette génération, elle n'a pas connu l'Ancien Régime, et que mine de rien, avec son lot d'exactions et tout ce qu'on se l'est, la Révolution et l'Empire, mais surtout la Révolution, a apporté quand même changements profonds, et y compris l'Empire, auquel finalement une bonne partie de la population veut rester attachée.
Il y a une mutation aussi politique, c'est ce qui fait la richesse de votre livre. Au fond, c'est une sorte d'approche à 360 degrés, autant historique que politique, sociologique, etc. Je notais à la légitimité de droit divin succède la légitimité populaire.
Oui, c'est effectivement tout à fait ça, dans le sens où jusque dans la population, il y a un désir du fait d'arriver par ses propres moyens. Et il est tout à fait édifiant à cet égard, quand on lit les archives, de découvrir des cris séditieux ou des gens qui interpellent Napoléon en disant « mais finalement, rendons la couronne à celui qui l'avait gagnée. Je ne connais que légitime que celui qui a gagné la couronne et qui l'a eu par lui-même. » Donc il y a vraiment une opposition entre les royalistes qui reviennent au pouvoir en 1815 et qui reviennent dans les fourgons des alliés, et dont on a l'impression qu'ils sont vraiment pas du tout là normalement, ils n'ont pas gagné cette couronne, et en regard de cela, évidemment, Napoléon apparaît comme celui qui a conquis, sur tous les plans évidemment au niveau militaire, sa couronne.
Est-ce que on regrette l'empereur, est-ce qu'on regrette l'homme, ou plutôt l'institution, ou bien les deux?
Ça, c'est assez difficile à dire, je pense un peu des deux, mais il y a vraiment la naissance un peu du mythe de l'homme fort dès cette période-là, et finalement la France est quand même attachée à ce genre d'homme providentiel. Il y a quand même un vrai amour et un vrai désir de Napoléon en tant que lui Napoléon. On ressent, quand on lit les archives, et on ressent à travers l'aventure de ces 4 faux de Napoléon, une vraie admiration pour l'homme, et c'est un homme dont on se sent très proche. En fait, ce qui ressort de l'image qu'avait l'empereur à travers ses 4 usurpations d'identité, c'est une espèce de père du peuple, quelqu'un qui peut se présenter devant vous avec des traits familiers, dans un certain dénuement. C'est pas grave, il est proche, il est simple, il est là pour vous aider, il est là... presque également aussi pour vous guérir, guérir vos maux. C'est pas anodin du tout que plusieurs de faux Napoléons soient des médecins ou se soient déclarés comme tels. Napoléon, c'est celui qui va guérir les maux de ses sujets. Napoléon, c'est celui qui va vous sauver. C'est celui qui va faire que vous étiez pas bien la veille et maintenant vous allez mieux. Et j'irais même plus loin en disant que Napoléon, c'est même plus un homme. C'est un mythe, c'est un personnage extraordinaire. C'est comme est le père Hilarion, un personnage tout à fait fantasque, fabuleux, qui descend aux enfers et en revient. Et d'ailleurs, Napoléon n'était pas revenu de l'enfer de la guerre et des trahisons. Finalement, c'est l'image d'un empereur aux multiples facettes qui se dégage de ses aventures. Et du coup, et qui montre un vrai désir de l'homme, peut-être plus, pour répondre à votre question, que des institutions, même si, encore une fois, il ne faut pas oublier cette image de Napoléon, c'est vraiment important, garant, et en tout cas fils de la Révolution et garant, du coup, des acquis de la Révolution.
Il y a une persistance dans le temps, parce que vous citez notamment un tract anonyme après les journées de 1830. Je cite ce tract anonyme qui a été imprimé à Lille. L'auteur du tract se met à la place de Napoléon. Il dit « Depuis que la mort m'a dégagé des fers anglais, mon âme se plaît à errer sur la belle France, ce pays que mon cœur idolâtra et qu'une sage liberté vient de prendre sous son égide. » On est en plein mythe, en pleine foi, en pleine croyance, on est dans le domaine du religieux.
Napoléon, c'est tantôt un héros antique, tantôt un dieu chrétien, tantôt juste un personnage extraordinaire et fabuleux qui peut se sortir de toutes les situations. Vraiment, Napoléon, c'est un personnage protéiforme, mais surtout surnaturel, à la fois religieux, comme vous le disiez, mais aussi tout simplement surnaturel. Donc on prête volontiers à Napoléon toutes ces caractéristiques-là. Et ça montre quelque part, n'en déplaise à la philosophie des Lumières, que en 1815 et encore après, les populations sont encore profondément imprégnées de tout ce qui est mythologie, tout ce qui est fable. Et finalement, c'est un peu aussi une société du merveilleux qu'on découvre lorsqu'on lit les archives. Et c'est aussi ça qui est assez touchant, finalement.
C'est ce mythe qui est dangereux, plus que ces faux Napoléon, ces quatre faux Napoléon.
Si on se met à la place des autorités de la Restauration, évidemment, ce qu'elles combattent jugeant les faux Napoléon, ce ne sont pas ces, entre guillemets, pauvres histrions, même si j'ai une tendresse évidemment toute particulière pour eux. C'est pas eux qu'elles combattent. Ce qu'elles combattent, c'est la résurgence du souvenir impérial. Et c'est effectivement le mythe napoléonien. C'est pour ça qu'il faut être sévère avec eux et surtout étouffer dans l'œuf toute velléité de à nouveau parler de l'usurpateur, de l'ogre ou du dévoreur d'enfants.
Alors justement, quelle est la répression qui est mise en place ?
Une répression assez forte, tant au point de vue des lois, puisqu'en fait, dès 1815, il y a la loi du 9 novembre 1815 qui est une loi sur les cris séditieux et qui condamne assez fermement tous les cris séditieux de l'époque. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un simple « vivre l'empereur », entendu dans une ville, peut être passible de prison, parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, je ne vous mens pas. Concrètement, ça veut dire que nos faux Napoléon, dont certains ont eu une escroquerie assez bornée dans le temps, par exemple Mathieu Félix, il s'est fait passer pour l'empereur pendant 2 jours. 2 jours qui n'ont provoqué aucune rébellion. Il est condamné à 6 mois de prison. Jean Charnay, lui, il est condamné carrément à 5 ans de prison. Il a le maximum en termes de prison et d'amende. Donc oui, il faut absolument être très très répressif. Et est-ce que c'est une erreur d'appréciation ou pas la société de la Restauration sur l'importance de ces faux Napoléon ? Finalement, peu importe, puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce qui compte, c'est d'étouffer le plus possible ce sentiment napoléonien qui se fait jour dès 1815 et qui finalement va perdurer, comme vous le disiez, et peut-être que le meilleur aboutissement de ce sentiment napoléonien qui se fait jour dès lors, c'est l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848.
Ce qu'il y a d'intéressant, Nathalie Pigot, dans votre ouvrage, entre autres, c'est vous intéresser aux techniques policières, vous montrer comment agissent les agents royaux afin de mettre la main sur ces personnages. Ils utilisent notamment des déguisements.
Oui, effectivement, il y a une vraie organisation de la police pour démasquer tous les sentiments bonapartistes. Le premier d'entre eux, c'est effectivement d'inciter le peuple à la délation. Clairement, on leur dit si vos voisins ont des sentiments bonapartistes, si vous entendez des cris séditieux, tenez-nous au courant, faites-nous les remonter. Et d'ailleurs, ça marche, puisque dans la plupart de nos aventures, c'est par délation qu'ils ont été retrouvés et donc après condamnés. Et on assiste effectivement aussi au premier, entre guillemets, policier en civil, pardonnez cet anachronisme, mais effectivement, effectivement, ils mettent en place des techniques assez particulières, comme le fait de se cacher sur les chemins de traverse, de travailler dans l'anonymat et de travailler justement en n'étant pas en uniforme, ce qui a d'ailleurs permis pour l'un de nos faux Napoléon d'être démasqué également. Donc effectivement, une vraie organisation pour démasquer ces coupables d'actes séditieux et une vraie organisation qui porte ses fruits, on peut quand même le dire.
Donc vous les estimez à la hauteur du phénomène ?
À la hauteur du phénomène, oui, totalement, même au-delà du phénomène, puisque comme je vous l'expliquais, ils ont tout à fait pris au sérieux tous ces actes séditieux, non pas tant pour les personnes qui portaient ces actes, mais plus pour justement la propagande ou la séduction que ça pouvait avoir sur les populations qui étaient encore bercées de Napoléon et qui ne demandaient finalement qu'à avoir encore du souvenir de la légende impériale dans les yeux.
Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que vous montrez que la mort de Napoléon va créer une forme de soulagement pour les autorités royales, pour le principe monarchique.
Un véritable soulagement, ça y est, enfin, on est sûr, il ne va pas revenir. Parce que, en fait, quand on regarde les archives, ça regorge de craintes. Pourquoi les faux Napoléon ont-ils été poursuivis avec autant de force? Tout simplement parce qu'il y a une vraie crainte du régime monarchique d'un retour de l'empereur. Et c'est pas du tout factice. Ils ont les yeux rivés, braqués vers Sainte-Hélène. Ils n'ont qu'une peur. Ils connaissent sa capacité de séduction. Ils n'ont qu'une peur, c'est qu'ils séduisent ses geôliers et qu'ils réussissent à s'échapper et qu'encore une fois, ils reviennent. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a le précédent du retour de l'île d'Elbe. Donc encore une fois, tout cela n'est pas une chimère. Donc les royalistes, ils craignent par-dessus tout un retour de Napoléon et c'est pour ça qu'ils font ces lois particulièrement sévères et répressives en 1821. Ouf, ça y est, on sait que de toutes les façons, ça, on a échappé au retour de l'empereur. Donc effectivement, on accueille à ce moment-là tout ce qui est crime séditieux ou usurpation d'identité avec un regard beaucoup plus apaisé. La meilleure preuve, c'est que notre quatrième faux Napoléon, qui s'appelle le père Hilarion, il a finalement été cité dans les mémoires d'Armand Marquiset, qui était un sous-préfet de Lozère, donc quelqu'un émanant du pouvoir, et qui voit tout à fait benoîtement les tribulations du père Hilarion et qui les narre non seulement avec enthousiasme, mais aussi avec ferveur. Et il peut, puisque nous sommes en 1821, après la mort de l'empereur, on peut dire que ce personnage qu'on a devant soi, il ressemble à Napoléon, qu'il vit de la crédulité publique, c'est pas grave. On peut même avoir une certaine admiration envers cet usurpateur d'identité, ce n'est pas grave.
Que représente du coup le retour des cendres?
Le retour des cendres, c'est finalement un apaisement. C'est finalement un signe que l'on retrouve ce symbole finalement d'une certaine gloire de la France avec une certaine sérénité. Et d'ailleurs, quand il y a la foule qui est postée face à ce retour des cendres, il y a beaucoup de gens dans la populace qui ont des cris d'amour ou d'affection envers Napoléon et qui disent regarde mon fils, tu me demandais ce que c'est un dieu, bah regarde, tu as devant toi un demi-dieu, c'est l'empereur. Donc c'est, je dirais, un apaisement quelque part la prolongation de ce que j'expliquais sur le fait qu'à partir de 1821, de toute façon, il n'y a plus cette crainte du retour et du coup on a un sentiment beaucoup plus apaisé envers le souvenir impérial. Il peut enfin fleurir et il ne fera d'ailleurs que prospérer.
S'il y a une leçon dans votre ouvrage, Nathalie Pigot, c'est que les peuples se mènent avec l'espérance.
Les peuples se mènent avec l'espérance, ils se mènent avec la fable, avec le merveilleux, ils se mènent aussi avec une certaine idée de ce que doit être l'avenir aussi, et il faut pas oublier que dans tout cela il y a aussi beaucoup de contexte. Je rappelais tout à l'heure le contexte un peu économique fragile de la Restauration, des différentes faiblesses du régime. Évidemment que cette légende impériale populaire naissante dès 1815, elle n'aurait pas pu faire floresse si il n'y avait pas eu tout ce contexte-là. Mais effectivement, pour mener les hommes, il faut tout ce merveilleux et toute cette légende.
Nous entrons dans le siècle du romantisme.
Nous entrons dans le siècle du romantisme. Il ne faut pas oublier que la légende impériale, elle a été forgée par Napoléon lui-même, hein, à travers aussi bien la peinture officielle David Gros que évidemment les bulletins de la Grande Armée qui étaient faits pour chanter les victoires de l'Empire. Elle a été très fortement propagée par les écrivains romantiques du 19e. Mais il y a un vrai romantisme politique populaire qui naît dès 1815 et c'est au final, ce que révèle ce livre.
Merci beaucoup, Nathalie Pigot, pour la présentation de cet ouvrage. Je vous en donne les références, les faux Napoléon, CNRS édition. Vous le trouverez partout pour la modique somme de 20 euros avec une préface de l'incontournable Jean Tullard. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je voudrais dédier cette émission à Julien. Il comprendra très vite pourquoi nous parlons de faux Napoléon et de vrais escrocs. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci et à très bientôt.